sa neshama soit rattachée avec les vivants. Alors, merci pour votre accueil. Darba le Baal HaBayit, Baalat HaBayit. Et merci, Bichlal, de venir m'écouter. J'espère que vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons parler de la force du discernement. En hébreu, le discernement se dit Bina. La Bina, comme vous l'entendez, elle est féminine, mais nous avons une règle en hébreu, c'est que si je veux comprendre quelque chose, je peux essayer de voir le masculin de cette chose-là, ou bien si c'est le masculin, je cherche à voir le féminin. C'est-à-dire par l'autre sexe, je peux comprendre le premier. L'homme se dévoile par sa femme, et la femme est dévoilée aussi en regardant l'homme. Donc la Bina, étant donné qu'elle est féminine, c'est pour ça qu'elle a un nom qui se termine avec la lettre He, et c'est très important, selon les kabbalistes, de donner à des filles des prénoms qui se terminent avec He, ça évite beaucoup de problèmes dans la vie, notamment pour l'accouchement. Quand une femme porte le nom avec une lettre He, qui, vous le comprenez, donne naissance au mot He Rayon, qui est la grossesse, eh bien dans cette lettre, il y a en fait une mise en volume, parce que c'est une lettre hébraïque qui a un axe horizontal, un axe vertical et un point qui est en réalité un point dans l'espace. C'est comme les X et Y. Et un point dans l'espace, c'est-à-dire ça fait un volume. Et mettre une idée en volume, c'est tout simplement enfanter. Or, le masculin de Bina, c'est Ben. Ben, pas le fils, mais Bein, avec un Yud au milieu. Et qui veut dire entre. Ce qui veut dire que la Bina, c'est discerner entre. 2 degrés. Être capable de voir une différence entre deux notions, entre deux niveaux. Et plus que cela, puisqu'elle est entre les deux, c'est qu'elle est au milieu. Et donc si elle est au milieu, elle est ni dans l'un, ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle est dans l'espace vide qui relie deux éléments. Cet espace vide, vous pouvez le voir dans le parchemin du livre de la Torah. En réalité, le parchemin est blanc, il est obligé d'être blanc. Et au moment où on écrit, on va tout simplement placer des lettres, rapporter des lettres sur le blanc. Ça veut dire que le blanc, en réalité, supporte toutes les lettres. Il n'y a pas seulement de blanc autour des lettres, mais il y a aussi sous les lettres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de blanc que d'écriture. Et la capacité à lire un texte, c'est beau. Mais la capacité à lire un vide, c'est encore plus fort. Ce qui veut dire que certains d'entre nous, et la plupart d'entre nous, nous lisons des textes. D'ailleurs, nous avons l'impression de lire le noir des lettres, alors que le cerveau, lui, lit les blancs. Et après, il fait un travail d'inverser les choses, et on a l'impression de voir le noir. Toujours est-il que lire le noir, c'est lire des lettres qui ont, à un moment donné, capté une partie de ce grand blanc, et qui tout simplement lui ont donné une certaine forme dans l'espace. Et donc les lettres sont des signaux, en hébreu, ot, qui ne veut pas dire seulement une lettre, mais qui veut dire un signal. Et dans le mot ot, qui veut dire lettre, vous avez le aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, et le tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, et au milieu, vous avez la lettre vav, qui fait l'union. Ce qui veut dire que dans chaque lettre, il y a tout l'alphabet. Comment ? Par exemple, si vous prenez le aleph, vous avez l'impression que c'est une seule lettre. Alors que quand je dis « Aleph », j'en ai déjà prononcé trois. « Aleph ». Donc si je subdivise encore chacune d'entre elles, le « Aleph » est encore un « Aleph ». Le « Lamed » est un « Lam 2 ». Et le « P » est encore « P »,« He » ou « P »,« Aleph » ou « P »,« Yud ». Ce qui veut dire que si je commence à développer, j'arrive à l'infini, avec une seule lettre. Et donc en réalité, il faut savoir lire aussi le blanc entre les textes. Je dirais, pour un petit peu plus me faire comprendre, savoir entendre les silences entre les paroles. Et donc le discernement, la bina, je résume, c'est en réalité la capacité d'écouter le silence. Et les sages nous disent que les bons élèves entendent les paroles de leur rave, de leur maître, mais les super élèves entendent les vides et les silences de leur rave. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus à dire dans le silence que dans le texte lui-même. Et plus on vieillit, plus il y a un temps vide entre les mots. Plus on est jeune, plus on a l'impression que si on ne parle pas constamment, on va s'ennuyer. Et plus on vieillit, moins on parle. C'est-à-dire que les vides prennent le dessus sur les paroles. Donc, si vous allez à une bar mitzvah, on est toujours obligé de dire au bar mitzvah, doucement, doucement, il vit trop vite. Il a peur des vides. Quand on est copain, copine, on commence à être adolescent, on a honte quand il y a un moment de silence avec sa copine ou son copain. Alors que quand on vieillit, on peut s'asseoir pendant des heures, il n'y a pas un qui parle. Et puis quand l'un d'entre nous souffle, ou respire, ou expire, alors l'autre lui dit, je t'avais déjà dit de ne pas parler des enfants. Donc en réalité, on commence à entendre les silences. Eh bien, dans notre relation avec l'infini, il se passe exactement la même chose. Lorsque l'infini béni soit-il nous parle, alors on entend certaines choses. Mais lorsque l'infini béni soit-il se tait, entre guillemets, en réalité ça nous permet à nous d'entrer en jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui arrête, stoppe son action, quelque part, ça permet à l'homme de rentrer en action. C'est comme, par exemple, des parents avec leurs enfants. Plus les parents agissent et étouffent, moins l'enfant prend une responsabilité. Donc l'intelligence du père et de la mère, c'est de lâcher prise, de sortir un petit peu du jeu, de se taire, pour laisser aux enfants la possibilité d'être. Eh bien, le Créateur a fait la même chose dans son monde. Parfois il parle, en tout cas pour nous, hein. Chez lui il n'y a pas de changement, mais nous, de temps en temps, on l'entend parler, de temps en temps, on ne l'entend pas parler. En hébreu, quand on n'entend pas, quand on se tait, ça se dit « hash ». Et quand on parle, ça vient « mila », c'est « mal », donc « hash mal ».« Hash mal », c'est pas l'électricité, c'est « se taire et parler », »,« se taire et parler ». D'ailleurs, comme l'électricité alternative, qui en réalité, si vous regardez une sinusoïde, parfois c'est plus, 0 moins, 0 plus, 0 moins, donc ça parle, ça se tait, ça parle, ça se tait, ça parle, ça se tait. C'est tellement rapide que vous avez l'impression que ça parle tout le temps. Donc vous avez tout le temps de la lumière. Mais si je filme cette lampe maintenant au ralenti, vous allez voir que ça s'éteint et ça s'allume à chaque instant. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il y a des moments de silence et des moments de parole. Et nous devons faire l'équilibre entre ces moments-là. Tout ça, c'est le début pour présenter ce que représente la bina. Et cette bina se trouve dans le corps humain, placée dans le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est un côté masculin qui en réalité une idée, une idéologie, un point. Et la face gauche du cerveau va développer cette idée, donc ça va devenir Bina, une femme féminine, qui va donner un volume à ce petit point. C'est d'ailleurs les quatre lettres du nom de Dieu. La première lettre, c'est un point, c'est un Yud, et immédiatement à côté de ce Yud, il y a le He. Après, il y a le Vav et le He, le tétragramme. Yud, He, Vav et He, ce que vous voyez dans vos livres. Eh bien, quelles sont les deux premières lettres? C'est le cerveau droit et le cerveau gauche. Cerveau droit, point, en hébreu la lettre Yud. Cerveau gauche, développement de ce point, donner un volume à ce point, la lettre V. D'ailleurs, on ne perd rien, c'est juste un emplacement différent. Parce que combien est en valeur numérique la lettre Yud? 10. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Et si j'écris maintenant, je développe le Yud, ça devient Yud, c'est-à-dire Yud, Vav, Dalet. Eh bien, je laisse le Yud et je prends juste le remplissage, Vav, Dalet. Donc Vav, c'est 6, et Dalet, c'est 4, j'ai encore 10. Donc le remplissage du Yud, c'est toujours 10. 10 a donné naissance à 10, seulement le Vav rentre sous le Dalet, et vous allez la lettre Ré. Donc je viens de vous construire la lettre V, qui est tout simplement, on sort la racine qui est le Yud, et on garde le Vav et le Dalet, et vous placez le Vav à l'intérieur du Dalet, et vous avez le V. Donc vous voyez que le discernement, c'est une force extraordinaire, et dans notre prière journalière, quotidienne, on demande, à l'infini béni soit-il, « Atachonen » Le Adam da'at umlamed le enosh bina. Toi, maître de l'univers, tu donnes à l'homme ce qu'on appelle la possibilité de faire des connexions, ce qu'on appelle le da'at. C'est la connaissance, mais dans le sens connexion, pas la connaissance informatisée, mais une connexion avec la chose. C'est-à-dire que je n'étudie pas un texte par cœur, je deviens le texte que j'étudie. C'est différent. C'est-à-dire qu'on ne demandera jamais à un mathématicien de devenir un 8. Ou quelqu'un qui enseigne la géométrie de devenir un triangle. Mais on demande à un rav de vivre ce qu'il enseigne. Et si tu es un juif, un homme d'Israël, une femme d'Israël qui est connectée avec ta vraie lumière, tu n'es pas en train de servir quelque chose d'extérieur, tu deviens toi-même la chose en question et tu vis ta vie. C'est pour ça qu'en réalité, on demande aux enfants d'Israël de venir habiter sur leur terre. Parce qu'en dehors de leur terre, ils sont un petit peu à côté. Un petit peu beaucoup. Et on leur demande de venir pour marcher dans leurs chaussures et pas à côté. La Gemara, sur ce texte que nous demandons à Kadosh Baruch Hu, donne-nous cette forme de connexion pour que je puisse faire le lien entre les choses dans ce monde, et enseigne-moi aussi le discernement, c'est-à-dire développe-moi le côté gauche, qui est très développé d'ailleurs chez les artistes. Parce que les artistes ont un côté imaginaire qui était très développé, et c'est justement en travaillant le cerveau gauche. Et s'ils veulent développer ce système, ils peuvent le faire avec des exercices très simples, c'est par exemple de lire des textes à l'envers et de regarder le texte à l'envers, de le lire. Et donc ça va développer tout le système du côté gauche qui va en fait fleurir et va donner un sens énorme parce que le côté gauche va gérer en fait toute la partie active de notre corps. Et donc les sages nous disent que c'est très important cette prière. Alors quand on le traduit en français, on n'entend pas grand-chose, mais ceux qui se connectent avec les paroles dans une précision extraordinaire, et ce n'est pas un jeu de mots, vraiment extraordinaire, eh bien, on s'aperçoit que plus tu t'appliques à penser ce que tu es en train de dire, et pas seulement dire des mots, parce que beaucoup d'entre nous disent des mots. On ne sait pas, on a l'impression que c'est des formules. Yo, ma chichi, va y rouler. Tu dis, tu as appris par cœur. Un jour on t'a enseigné, tu lis d'un livre, mais tu ne comprends pas, tu n'assimiles pas, tu n'es pas ce que tu es en train de faire. Il y a toi et la chose. Vous êtes deux choses séparées. Mais plus tu te connectes à la vraie étude de la Torah, plus toi et la chose, vous devenez un. Et ça, c'est autre chose. Parce qu'on nous demande d'intégrer ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et donc, ce discernement et cette connexion, qui d'ailleurs se trouve à l'endroit où on pose les tfilines, les hommes qui mettent les tfilines le matin, ils ont un nœud qui est posé sur le troisième cerveau, sur le cervelet, qui est au centre, et à partir de ce cervelet, en fait, il y a la gestion des deux parties du corps. C'est pour ça que vous avez deux lanières, des téphilines qui descendent. Ce n'est pas des choses archaïques, c'est un phénomène qui active tout le cerveau humain avec son corps. Et donc, une des lanières est posée sur le côté droit, la deuxième lanière est posée sur le côté gauche, donc c'est en train d'activer chaque matin les deux cerveaux en recevant une lumière qui se connecte en fait à quelque chose qui me dépasse, avec un boîtier à quatre facettes, parce qu'il y a les quatre lettres du nom de Dieu qui pénètrent en fait mon cerveau, qui est posé sur mon cerveau droit, sur mon cerveau gauche, qui vient se relier par mon cervelet et qui descend le long de mon corps, c'est-à-dire que mes actions ce jour-là vont être complètement différentes. Les gens qui ne comprennent pas tout ce système, ils se disent, bon, ils se mettent des phylactères, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ça me fait toujours rire. Et bon, ils sont religieux, c'est des religieux. Il n'y a pas de religion, nous ne sommes pas une religion. La religion tue le judaïsme. Faites très attention, ce ne sont pas les actions qui nous font. C'est parce que nous appartenons à un degré infini que nous recevons en fait des actes qui, dans la logique rationnelle humaine, ne sont pas compris, ces actes. Et en réalité, ce sont des lumières extraordinaires, et plus on pénètre dans l'étude de la Torah, plus on voit le bienfait et l'intelligence que cela procure, et un changement de vie, tout simplement dans tous les domaines. Et c'est en cela qu'on voit quelqu'un qui réellement avale la Torah, qui l'étudie, et non pas seulement l'étudie par cœur. C'est facile de répéter des versets, j'ai pas besoin d'être un rave pour ça, j'ai un ordinateur. Mais quand je deviens moi-même le texte, et que les lettres, en fait, me pénètrent, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit discerner? Eh bien, d'abord, on doit discerner, puisque nous avons dit que la bina, c'est entre et entre. Entre deux degrés. Donc, je suis obligé de connaître, en fait, les deux degrés. Quels sont les deux degrés? Mais c'est très simple. Notre monde, notre création, notre monde, est en réalité une création qui est basée sur le chiffre 2. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un monde de création. Quand je crée, moi je ne peux pas créer, mais le créateur c'est l'infini, donc c'est une unité, une unicité parfaite. Mais lorsque cette unicité va sortir d'elle, le monde de la matière, le monde de la création, immédiatement on sort vers le pluriel. Donc notre monde, c'est le pluriel. Alors que l'infini, c'est l'unité parfaite. Donc l'unité a créé le pluriel. Donc notre temps commence par le 2, qui est le minimum du pluriel. Et c'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet. Parce qu'elle est 2. Et cette notion de deux a donné tout ce que vous connaissez dans ce monde-là. Le temps. Je ne peux pas mesurer le temps si je n'ai pas deux éléments. Donc le deux et la distance entre les deux me donnent non seulement un espace, mais en même temps un temps, ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc pour avoir un espace, il faut que j'ai minimum deux points, et pour avoir un temps, il faut que j'ai minimum deux points. C'est pas par hasard que la plus petite mesure du temps, c'est la seconde. Pour ça qu'on l'appelle la seconde, parce qu'il y a deux. On est obligé d'avoir deux. C'est dans toutes les langues, hein? Shnia, shnaim. Si je n'ai pas shnaim, il n'y a pas de temps. Or, chez Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il n'y a pas de deux, c'est l'unité. Donc chez lui, le temps n'existe pas. Mais nous, nous sommes dans un monde de pluralité. Donc tout ce monde est un monde de pluriel. Regardez, tout est pluriel. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois apprendre avec cette clé que l'éternité m'a donnée, qui s'appelle donc le discernement, à différencier entre les différents points de cet univers. Vous comprenez? Et donc je dois en fait commencer à travailler, et on perd beaucoup de temps, à savoir les différences des choses. Par exemple, est-ce que je sais qui je suis? Au niveau individuel, est-ce que vous vous connaissez réellement? Est-ce que vous savez quelle est votre différence, votre spécificité par rapport à quelqu'un d'autre? Je ne parle même pas au niveau de la nation, parce que là, ça devient... Si tu ne sais pas qui tu es au niveau de la nation d'Israël, ça ne sert à rien de commencer à faire des actes religieux. Tu ne sais même pas qui tu es. D'ailleurs, qui vient avant qui? La Torah ou la conscience que je suis un peuple? La conscience que je suis un peuple, avant la Torah. On le dit tous les jours. Asher bachar banu mikol ha'amim, qui nous a choisi de parmi les nations, ve. Et après seulement, Natan lanu et Torato, il nous a donné la Torah. Ça veut dire, si tu ne sais pas qui tu es au niveau de ta nation, comment est-ce que tu veux appliquer la Torah? Ça sert à quoi? Et donc nous avons une spécificité. Et je me dois de la connaître, en tout cas de la reconnaître. Cette spécificité me fait être ce que je suis par rapport aux autres. Et c'est ce que nous disons. Hivdilanu min hagoyim. Hivdilanu mikol haleshonot. C'est-à-dire nous avons une langue différente. Parce que nous sommes différents. Donc je me dois de connaître ma langue parce qu'elle fait partie de ma spécificité. Et je dois reconnaître mon identité parce qu'en réalité c'est moi, c'est pas l'autre. Mais si je me perds, si je m'embrouille, si je ne sais plus où je commence et où je termine et où l'autre commence, eh bien on mélange tout. Eh bien ce secret-là, je sais que c'est un thème qui est très cher à Laetitia, ça s'appelle la Havdalah. La Havdalah que nous faisons à la sortie du Shabbat, comment est-ce que vous traduisez Havdalah? Séparation. En fait, c'est tout sauf ça. C'est différenciation. Il n'y a pas marqué Havfrada. Il y a marqué Havdalah. Si vous séparez, vous êtes mort. La Torah n'a jamais demandé de séparer le Shabbat des jours de la semaine. Mais elle a demandé de différencier, c'est-à-dire de reconnaître le niveau de chacun. Ça change tout. Vous voyez comment le français a dévoyé le véritable texte de la Torah. Et tout le monde a l'impression que c'est comme ça. Avdallah égale séparation, chas v'chalila. Je dis chas v'chalila parce que c'est une notion de mort. Quand on sépare des éléments, c'est la mort. Quand on rassemble des éléments, c'est la vie. D'ailleurs, quelle est la différence entre quelqu'un de mort et vivant? C'est que quand on est vivant, tous les éléments sont ensemble, alors que quand on est mort, le dénominateur commun est sorti, donc tous les éléments se disloquent. Chaque élément revient à sa nature, c'est fini. Quand vous vous réveillez le matin, vous laissez de temps en temps une oreille sur le lit, elle vous dit, allez-y, je vous rejoins. Ça n'existe pas, ça vous fait rire. Mais en réalité, c'est ce qui se passe chez le mort. Tout se décompose, parce qu'il n'y a plus l'unité. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que la séparation égale mort. Mais différencier, ça c'est essentiel, que je dois savoir que les éléments qui me permettent de voir ne sont pas au même niveau que les éléments qui me permettent d'entendre. Et là, si je ne fais plus les différents, là j'ai un problème. Je ne sais plus qui est mon identité Israël. Je ne sais plus qui est mon identité homme ou femme. Le monde est en train de partir en cacahuète. Si tu ne connais plus en réalité qui tu es dans ton essence, il y a un problème, parce que tu as perdu quoi? Et maintenant vous avez le terme hébraïque, la bina, le discernement. Donc le monde manque de discernement. Et donc le peuple d'Israël a reçu comme vocation, pour vocation, de commencer à prendre tous les éléments et faire un doctorat. Et le premier doctorat sur lequel je dois me pencher, c'est sur mon identité qui s'appelle, avec un nom bien précis, Israël. Donc si je ne sais pas quelle est mon identité, quel est mon peuple, quelle est la structure intérieure, la matière qui compose ce peuple-là, comment vous voulez commencer à faire quoi que ce soit dans la Torah? Donc on plonge des jeunes dans une étude, dans des applications, dans des mitzvot, alors qu'ils n'ont jamais étudié leur structure intérieure qu'on appelle l'identité, la zéhout. Est-ce que nous sommes des religieux individuels? Ou bien est-ce que nous sommes une nation? Qu'est-ce que l'infini, béni soit-il, veut de nous? Est-ce qu'il veut que je sois un religieux, peu importe où je suis? Ou est-ce qu'il veut que je devienne une nation parce que c'est ma véritable vocation? Donc j'ai un texte de la Torah qui me le dit clairement. Quand la première fois il y a une rencontre entre l'infini et un homme, qui est notre matrice, notre père, Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Quitte l'endroit où tu te trouves pour aller vers la terre que je t'indiquerai, parce que mon but, c'est pas que tu sois religieux là où tu es. J'en ai rien à faire de ça, moi, l'Éternel. J'ai prévu pour toi que tu deviennes une nation. Et où est-ce que tu peux devenir une nation? Sur ta terre. Donc, immédiatement, moi, en tant que lecteur, qu'est-ce que j'ai comme renseignement premier? Le peuple d'Israël est une nation et non pas des enfants juifs religieux éparpillés dans le monde. Quand vous voyez des religieux dans le monde, ils sont dehors de la structure que Dieu demande. J'invente rien. J'ai une Torah pour ça. Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham, là tu ne pourras rien faire de ce que je te demande. Là-bas, tu pourras commencer à dévoiler mon nom et à faire le lien entre toutes les nations du monde. Donc un juif en dehors de sa terre ne peut pas réellement travailler dans sa véritable structure. Comprenez comment 2000 ans d'exil nous ont tués et comment aujourd'hui nous devons retrouver et étudier sérieusement la Torah. Je ne peux pas m'inventer un texte qui n'est pas écrit. Nous avons tous le même texte. Et ça, c'est un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le judaïsme est devenu religion, une religion n'a pas besoin d'un lieu. Il suffit de faire des actes. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. « Elle ha-chukim va-mishpatim asher tziva Hashem Eloheinu la'asot ken bekerev ha'aretz. » Voici les préceptes, voici les mitzvot, voici les lois, voici la Torah, voici les mitzvot que je vous ai ordonné de faire, où? Sur la terre, pas en dehors de la terre. Il y a un lieu géographique, un corps, dans lequel je dois faire entrer toutes ces valeurs. Donc je dois étudier mon rôle dans l'histoire, sur le podium de l'histoire humaine. Si je ne connais pas mon rôle en tant que nation, et donc j'ai des versets, j'ai des prophètes. « Am zu yassartili » dit l'Éternel, « je me suis façonné pour moi un peuple qui a une matière différente, ça s'appelle les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, et quel est leur rôle ?»« Tehillati yassarperu » pour qu'ils racontent qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a besoin de frimer? Non. Ce n'est pas pour raconter qui je suis, pour que mes valeurs d'éthique, de morale, de propreté, de droiture, d'équité, de lumière, de bonté, d'amour, circule dans ce monde. Sinon, tu vas t'inventer n'importe quoi. Tu vas décider des lois de morale qui n'ont aucun rapport avec la vraie vérité. Par exemple, si vous demandez à un Européen comment est-ce qu'il respecte une femme, eh bien, il va te dire, eh bien, quand on monte l'escalier, je lui demande de passer devant. Comme ça, je regarde ses fesses. Comprenez? C'est tout à l'envers de ce que la Torah nous enseigne. Parce que tu peux arriver à des conclusions qui sont complètement inversées à ce que l'infini béni soit-il nous demande. Donc si tu laisses l'homme avec son petit cerveau serpentesque, on appelle ça le cerveau reptile. Hein? Reptilien? C'est la même chose. À quoi on arrive? À des massacres, à n'importe quoi. C'est d'ailleurs la première faute du premier homme. Qui est-ce qu'il a écouté? Son cerveau reptilien, le Nahash. Alors vous croyez que s'il y avait un homme qui se baladait dans un jardin qu'on appelait Éden, il y avait un serpent qui lui disait « tu veux manger de la pomme ?» Mais c'est débile, arrêtez avec ce niveau de Torah. Ce que le texte de la Torah nous enseigne, c'est que si tu tombes dans ce cerveau reptilien, tu vas plus savoir où est le bien, où est le mal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a mangé? L'arbre du bien et du mal. Donc il a tout mélangé. Le bien et le mal ne sont plus connus. Donc le peuple d'Israël vient sur terre pour faire quoi? Une seule chose. La Havdala. Tu te rends compte que c'est le plus grand sujet qui existe? Et je vous le dis, mais ne le prenez pas dans le sens religieux, si vous ne faites pas la Havdala à la sortie du Shabbat, c'est pas que vous avez fait quelque chose d'un péché, j'adore ces mots en français, c'est débile comme mot. C'est que tout simplement, vous avez enlevé de vous-même la capacité de différencier, de discerner entre certaines choses. C'est dommage, c'est une perte. Si on enseignait la Torah de cette manière-là, je vous garantis que les gens feraient la Havdala. Mais si tu lui dis comme un débile, regarde, tu as fait un péché, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait... Et le vendredi soir, pour rentrer dans le Shabbat, il faut que je différencie aussi. Donc comment ça s'appelle la Havdala dans l'autre sens? Exactement, donc le Kiddush. Donc il y a le Kiddush, c'est pour changer de niveau du profane pour entrer dans le Kodesh. Et à la sortie du Shabbat, je dois encore une fois revenir au discernement. Attention, il y a des règles dans ce monde. Je ne peux pas tout faire tout le temps. Donc il y a des moments où je dois faire, il y a des moments où je ne dois pas faire, il y a des moments où je dois parler, il y a des moments où je dois me taire. D'ailleurs, souvent plus se taire que parler. Et tout ça, on l'apprend dans plein de choses. Même dans la soirée, qui par excellence, il faut parler tout le temps, c'est-à-dire fais ça. On te dit avant tout de manger du carpas. C'est quoi ce carpas? C'est un crocodile? Non. Les sages nous disent que ce sont des codes. Carpas, ce sont kaf, resh, pe, samer. Ce sont des initiales. Klal, Rishon, Pe, Sagour. Première règle, ferme-la. Maintenant, tu vas commencer à parler. Mais si tu ne sais pas te taire avant de commencer à parler, tu ne pourras jamais rien faire. Et en réalité, c'est un grand secret. Quand vous allez à un concert de musique, l'instant d'avant le début de la musique, c'est l'instant le plus grand. C'est un petit silence où le chef d'orchestre lève ses mains, il ne se passe rien. Mais en réalité, tout le concert est déjà dans ce point-là, le silence. Et quand vous finissez, que vous sortez du concert et que vous êtes dans votre voiture, vous n'avez même plus envie, si c'était fort, d'allumer la radio. Ça va vous gâcher quelque chose. Donc vous rentrez dans un silence jusqu'à la maison. On n'a plus envie de parler, comme après un film très fort. Rabotaï, ce sont des nuances de notre vie. C'est dommage de rater tous ces discernements, toute cette havdala. Et quelle est notre spécificité, justement? Mais il faut l'étudier. Mais comme je suis venu et que je dois un tout petit peu ouvrir ma bouche, eh bien, je vais vous dire, nous avons été choisis par l'éternité pour être son porte-parole. C'est pas facile, hein? C'est une grande et lourde responsabilité qu'on nous reproche depuis la nuit des temps. Nous sommes le porte-parole de l'infini. Nous sommes les seuls à avoir reçu la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Vous croyez que Dieu nous a jeté un bouquin du ciel? Pas du tout. Ce sont toutes les valeurs de l'infini que je vous ai dit tout à l'heure, et encore beaucoup plus, qui nous a donné pour gérer ce monde. Qui a apporté à ce monde les 10 paroles que vous appelez les 10 commandements, alors que jamais on a entendu parler de ces 10 commandements? C'est intéressant, ça dit gros, ces 10 paroles, c'est pas des commandements. Commandements, ça fait tout de suite armée, machin, péché, t'as pas fait, c'est mauvais. Et écoutez comment les gens éduquent leurs enfants, c'est une catastrophe. T'as pas fait des filas, tu vas être puni. C'est quoi ça? Nous sommes le porte-parole, nous sommes le chauffard de l'éternité. Et c'est une responsabilité, il faut savoir ouvrir sa bouche pour raconter les véritables valeurs et arrêter d'être des nerveux. J'appelle ça en hébreu « Atzbani Dati ». Il y a plein de « Atzbanim Datim ». Arrêtez, lâchez prise, détendez-vous. On a affaire avec l'infini, on n'est pas affaire avec un patron de ma collette nerveux. À qui n'a pas fait ça, tu vas recevoir sur la... Mais c'est quoi ça? Koach ma'asav hi guide les amo. Koach, le potentiel de ses actions infinies, hi guide. Comme guider, en français, il les a fait passer par son peuple. C'est-à-dire, nous sommes les actionneurs de son idéal infini. Il a choisi de nous créer de cette manière-là. C'est-à-dire, vous allez faire que je suis. Je vous pose une question simple. Vous avez des mitzvot? Oui ou non? Oui? Non. Non. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam asher kideshanu be-mitzvot. Ce sont ces mitzvot, pas les miens. J'ai aucune mitzvah, moi. Aucune! Ce sont toutes les siennes que moi, j'applique. Waouh! Je vais vous donner un exemple. Vous avez votre cerveau? Non. Si c'était Tzivoui, il aurait fallu Vetsivano a fait. Il a fait. Donc en réalité, il faut être précis. Asher Kideshanu Bemitzvota et après Vetsivano. Ah. Comprenez comment on n'arrive pas à comprendre? Et même le Vetsivano, je veux dire quoi? Qui nous a ordonné? Pas du tout, ça vient de la racine en hébreu, et c'est pour ça qu'il faut parler l'hébreu, sevet, qui veut dire équipage. On fait partie de son équipage. De la même manière que ma main est l'actionneur de mon cerveau. Donc mon cerveau, c'est à lui la pensée. Mais il me demande maintenant d'aller lever ce stylo. Eh bien, nous sommes cette main, ses doigts, nous sommes ses jambes. Quand Dieu, par exemple, dit « Un jour, je me poserai sur le mont des Oliviers », vous croyez qu'il a des pieds? Ça veut dire qu'un jour, les soldats d'Israël, en 1967, la guerre des six jours, vont se poser sur le mont des Oliviers. Et on dira « Dieu s'est posé aujourd'hui sur le mont des Oliviers ». Quand Dieu dit dans la Amida « Je reviendrai sur ma terre », pourquoi il bouge, c'est Batman? Un coup il est là, il vient ici, on ne peut pas prêter ces notions à l'infini, vous comprenez bien, c'est ridicule. Alors qu'est-ce que ça veut dire je reviendrai sur ma terre? Vous, mes enfants, vous allez revenir sur votre terre et ça sera mon retour à moi. Et qu'est-ce que ça veut dire mon retour? Mon dévoilement. Parce que je n'attends que ça pour me dévoiler. Tant que vous n'êtes pas sur votre terre, je suis moi-même dans une forme d'exil. Je ne peux pas me dévoiler. Si vous n'êtes pas mes témoins, je n'existe pas. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des prophéties. Atem, Edai, vous êtes mes témoins, va'ani, El. Alors je suis moi. l'infini béni soit-il, qui va vers vous. Elle ne veut pas dire Dieu, mais aller vers. Vous voyez comment on ne comprend rien? Comment la Torah demande une étude sérieuse, d'abord de la langue du Saint béni soit-il? Parce que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et donc tout ce système-là, c'est dans Atachonen le Adam Das. Mais là, je vais rajouter une couche. Où est-ce que le Saint béni soit-il nous dit de faire toutes ces différences entre les choses? Justement dans cette prière. Atachonen le Adam Das, et après immédiatement on enchaîne. Atachonantanu. Non, je parle du Motzaé Shabbat, la sortie de Shabbat. C'est à l'intérieur de cette prière-là que j'introduis ce qu'on appelle la Havdalah. Vous avez compris? L'homme qui fait la prière du soir à la sortie de Shabbat, il a déjà fait la Havdalah dans sa prière. Ça veut dire qu'il peut prendre sa voiture, même s'il n'a pas fait la Havdalah avec la bougie, avec le machin, avec tout ça. La Havdalah, c'est quoi? C'est pendant cette prière, je commence à introduire des choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais introduire là-bas? C'est énorme le cours, j'ai même pas commencé. Sérieusement, j'ai même pas commencé. Je suis à la troisième ligne. Atachonen le Adam Das. Et regardez ce qu'il nous demande de différencier. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça à la sortie du Shabbat, vous allez être paumé toute la semaine, parce que tout va se mélanger. Atachonen tanu, tu nous as donné cette capacité, Adonai Eloheinu, notre maître, Mada vehaskel. D'avoir une intelligence. C'est-à-dire, je n'ai pas jeté l'intelligence reptilienne, mais je l'utilise en deuxième lieu. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de devenir un idiot. Mais d'abord, je sais qu'il y a une intelligence qui me dépasse. Cette intelligence qui me dépasse me donne une certaine qualité de vie. Maintenant, je commence à la travailler. Avec mon intelligence à moi. Attends, Martha. Écoutez bien, les Havdil ben Kodesh l'Echol. Tu nous as demandé, tu nous as dit de faire la différence entre ce qu'on appelle le Kodesh et ce qu'on appelle le Chol. Alors maintenant, on a eu une conférence de 10 jours à peu près, juste pour ces deux notions. Qu'est-ce que c'est que le Kodesh et qu'est-ce que c'est que le Chol? Alors en français, vous avez l'impression que c'est facile, le saint et le profane. Mais où tu as vu une chose pareille? C'est quoi ces noms-là et ces définitions? Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Si vous saviez quelle pauvreté représente une traduction, d'ailleurs une traduction c'est une trahison, parce qu'on n'arrive pas, c'est pas ça. Profane, n'importe quoi. Vous savez ce que c'est chol en hébreu? Du sable. C'est bizarre. Et c'est un verbe, la roule, c'est-à-dire se déposer. Donc ça s'appelle en hébreu chalout. Quand je dépose quelque chose sur quelque chose. Matai chal lag ba'omer. Quand est-ce que va se déposer le 33e jour du Omer? Où yachoul, il va donc se déposer yom chamishi haba, jeudi prochain. Qu'est-ce que tu me rapportes? Tu me parles de profane, machin. C'est quoi tes définitions? T'as rien compris en réalité. Donc qu'est-ce que c'est que les jours de la semaine? C'est des ustensiles dans lesquels vont se déposer des valeurs qui viennent d'un autre niveau. Ah, ça change tout. Donc vous comprenez pourquoi il ne faut pas séparer le Shabbat des jours de la semaine, mais il faut les différencier, mais il faut que le Shabbat rentre dans chacun des jours de la semaine. Et là aussi, il faut faire une différence. Le dimanche, ce n'est pas le lundi. Et si tu ne sais pas quelle est la différence entre Yom Echad et Yom Sheni, là aussi, tu as un problème. Et Yom Shlishi. Mais d'où elle va apprendre tout ça? Il faut vivre pour apprendre tout ça. Rabotai, c'est ça la Torah. Alors on est resté avec des idées, mais complètement limitées. J'ai honte parfois. Pour l'humanité, pas pour son niveau. C'est terrible. Quand je pense que l'élève du Hari HaKadosh, Rabbi Chaim Vital, Alav HaShalom, quand il ne comprenait pas une notion, Il ne pouvait pas aller dormir. Il pleurait toute la nuit parce qu'il n'avait pas compris une notion. Aujourd'hui, on ouvre un livre, c'est même plus un livre, c'est un bouquin. Okay. Oh, tu feuillettes, tu comprends pas, bon, ça va, je cherche un petit peu ailleurs, peut-être je vais comprendre mieux, je cherche ailleurs. Jamais, il n'y a rien. En plus de ça, avec toutes ces machines, internet, machin, tu regardes même plus, tu n'as même plus le temps de regarder, c'est juste des informations. Entre la salle à manger et la cuisine, tu veux montrer à ta femme quelque chose, c'est déjà passé, c'est fini. Fini, c'est mort. Mince, j'arrive pas à le rattraper, tu es en train de faire des années de... Tout ça, c'est un manque de réflexion, on n'arrive même plus à réfléchir. J'ai la chance de donner des cours à des pilotes de chasse israéliennes, de l'armée israélienne. Ce sont des gens très, très brillants, très intelligents. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont la plupart du temps seuls. Et ils réfléchissent énormément, ils prennent le temps des choses. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais c'est des tronches, les mecs. Et tu vois la capacité de saisir des notions extraordinaires. Vous ne pouvez même pas vous imaginer aujourd'hui combien de pilotes de chasse israéliennes portent la kippa. Vous ne pouvez même pas savoir, parce que vous ne les connaissez pas dans la rue. C'est des petits jeunes, vous les voyez, vous leur donnez 3 shekels. Ça, c'est la première discernement. On n'a même pas commencé, juste je vous les énonce. Hein. Après, ben or, le chocher. Oh, qu'est-ce que c'est que la lumière et qu'est-ce que c'est que le chocher? Vous savez, vous, ce que c'est? Vous croyez que c'est lumière et noir, jour, nuit, jour. C'est un visiteur, quoi. Tu comprends plus rien. C'est quoi, ça? Vous savez ce que c'est or? Vous savez ce que c'est chocher? Ça existe, le noir? Ou c'est juste un manque de lumière? Je ne sais pas, je vous pose des questions. Si tu ne sais pas faire la différence, quand j'ai allumé la lumière, où a disparu le noir, s'il vous plaît? Il a été invalide dans les molécules de la lumière. Ça commence à devenir important. Hein. Ils sont fous, ces juifs. Mais il faut se poser des questions, Rabotai. Akadosh Baruch Hu nous demande, et c'est ce qu'on dit dans la Havdalah. Ou Ben Israël Amin. Est-ce que tu connais la différence entre toi, la nation d'Israël, et les nations du monde? Je ne sais plus. Quelle est la différence? Où est-ce que je peux voir cette différence? Elle est importante. Je n'ai pas dit mieux ou moins bien. J'ai dit une différence, parce que chacun d'entre nous a un rôle. Moi, jamais en tant que juif ou homme d'Israël, je vais aller convertir un japonais. Pourquoi faire? Il a sa spécificité. Pourquoi je tue son identité? Toutes les religions du monde, elles sont prosélytes. Elles font du prosélytisme. Elles vont changer. Il y a la chrétienté qui rentre dans une tribu d'Afrique, les pauvres. Elle rend la tribu chrétienne. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu crois que c'est sa mentalité? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous avez déjà vu un juif rentrer dans une tribu africaine pour les rendre juifs? Jamais. Déjà, quand un non-juif veut venir dans le judaïsme, on lui fait la vie amère pour savoir pourquoi il veut changer. Pourquoi tu veux changer ta spécificité? Tu as été choisi pour faire telle et telle chose. Et moi, j'ai été choisi pour faire autre chose. Mais il faut étudier. Ou ben yom ha-shvi'i le sheshet yemei ha-ma'aseh. Tu sais quelle est la différence entre le septième jour et les 6 jours de l'action? Ou bien ton Shabbat, c'est encore un jour dans la semaine, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Keshem sheivdaltanu Adonai Eloheinu me'amei ha-aratzo. Tu nous as différenciés des nations de la terre, ou mimishpechot ha-adama, et des familles. Et là aussi, il y a des notions. Arasot, Adama, un coup on dit Eret, un coup on dit Adama, et comment tu dis en français? La terre. Non. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le discernement, le cerveau gauche. On ne sait plus discerner, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus voir quoi que ce soit. Okay? Je dois être capable de venir et de voir un dessin magnifique et de savoir avec combien de crayons l'artiste s'est servi pour faire ce dessin. Et je dois savoir avec quelle peinture a été faite cette reproduction, faite en Chine. C'est pas grave, hein? C'est important de savoir discerner. Sinon, tu n'as aucune valeur de rien. Si tu ne sais pas la différence, comment tu vas sortir des mauvaises choses de ce monde, des mauvaises énergies, des éléments qui te gâchent, qui ne te permettent pas de sortir de ta prison. Et cette prison, comment elle s'appelle dans la Torah? Mitzrayim, l'Égypte. Et le roi de l'Égypte, vous croyez que c'est le pharaon? Non. C'est Paro, dont la racine est Afra. C'est un dérangement, c'est un dérangeur, Paro. Il vient juste pour t'embrouiller. C'est le roi de l'embrouille, Paro, traduction littérale. Il vient t'embrouiller, c'est tout. Il te dit, mais c'est pareil que nous. On est tous des esclaves des lois de la nature. Restons ensemble. Faisons ça. Et toi, tu dis, non, je suis obligé de repartir vers moi-même, je suis obligé de sortir de cette prison, je n'appartiens pas à ce style de vie. Laisse-moi rentrer sur ma terre, c'est là-bas où je deviendrai ce que je dois être, ce qui a été prévu pour moi. Vous pensez à tout ça? Rabotaï, on ne fait pas son alia parce que j'ai des antisémites qui me font peur en Europe ou aux États-Unis, c'est pas ça. Je fais mon alia parce que j'ai compris que ma structure de peuple d'Israël, c'est ici, dans ces frontières-là, et que je dois développer quelque chose. Je suis en train de parler comme Galabru. Ou Mikol Xerot Kachot Veraot. Il faut que je fasse attention de tous ces degrés qui coupent, qui découpent. Xerot, qu'est-ce que c'est une Xera? Alors chez ceux qui parlent un petit peu l'arabe, il a reçu une xéra. Qu'est-ce que ça veut dire une xéra? Alors pourquoi une malédiction? Non, tout simplement, on a coupé l'ixo. On a coupé quoi? Il n'arrive plus à voir l'entité, donc il voit que des morceaux. Donc au lieu de comprendre l'image du puzzle, qu'est-ce qu'on lui a donné? Une pièce. Alors, le type, il se balade toute sa vie avec une pièce du puzzle. Et chaque fois que tu lui parles, il te sort la pièce, le pauvre, il te dit, je ne sais pas à quoi ça appartient, mais un jour, si Dieu veut, je verrai l'image complète. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire dans notre vie? C'est terrible! C'est terrible! Si tu ne sais pas quel est le morceau du puzzle, quelle est l'image complète, comment tu veux faire? Baruch Ata Hashem, Chonen Adar. Merci, béni, lié, relié, toi l'éternel qui me donne cette possibilité de faire des connexions. Vous comprenez que je ne vous ai encore rien dit. Je suis juste en train de vous poser les questions. Parce que toutes ces notions-là et bien d'autres, si on ne sait pas les définir, comment on peut faire? Si tu ne sais pas définir quelque chose dans ta vie, c'est que cette chose n'est pas assimilée. Facile. Répète le cours. C'est que c'est facile. Allez, commence à parler. Ouais, à la française, bien. Et après, quand tu sais plus, tu dis, ouais, bon, je me comprends. C'est la meilleure phrase. Je me comprends. Du bidon, okay? Ça ne veut rien dire. Okay? Alors moi, je n'ai appris le français que sur le tard. Vous comprenez que ma langue, c'est l'hébreu. Moi, je ne suis pas français. Je suis né en Israël et j'ai juste appris le français pour venir donner un cours ici. Alors quand j'entends des Français me dire, je m'excuse, je leur dis alors qu'il n'y a plus besoin de moi. Il s'est excusé tout seul, le type. Excuse-moi, c'est autre chose. Vous comprenez, il y a plein de petites nuances qu'on n'entend plus. Et qui c'est qui nous enseigne toutes ces différences-là? Il y a un cadeau, je bats au cou lui-même. D'où est-ce que je le sais? Encore une fois, prophétie. Que sam la choshech. Akadosh Baruch Hu sait mettre des limites au noir, à la lumière, au bien, au mal. Mais il faut que tu saches, toi, gérer tout ça. Vayar Elohim et haor ki tov. Vayavdel. Mais c'est Vayavdel. Il a fait la Avdala. Voilà, dans chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il a fait la Avdala. Ben haor, ben haoshech, vaikra la or yom, ve la choshech, kara laila. Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Voilà l'enseignant, voilà le maître, voilà un vrai maître qui nous enseigne, qu'il fait lui-même. Pas qui nous dit, allez, laissez-moi, moi, je suis tranquille, moi. Je vous balance des notions et moi, je ne fais rien. Non. Ça, c'est des secrets énormes. Vous comprenez qu'on n'a même pas abordé le sujet. Et là, nous sommes dans une période qui s'appelle le Homer. Et on est en train de traverser, en fait, quelque chose d'extraordinaire. Voilà la grande différenciation. On est sorti d'Égypte et on va vers la terre d'Israël. Et au milieu, on reçoit la Torah. Et quelle est la distance entre l'Égypte et la réception de la Torah, qui est en réalité la réception de mon identité? 5 ans. Pourquoi ce chiffre 5 ans? C'est quoi ce chiffre? C'est quoi ce chiffre 5 ans?
C'est le
pluriel de Chamesh. Chamishim, bien fait. Nachot. Allez un petit peu plus loin. Si vous changez le mot de Chamesh, qu'est-ce que vous obtenez? Sa mère. Nachot, la joie. Et si j'ai la joie, je commence à vivre mon messianisme. Mashiach, c'est les mêmes lettres que Chamesh. D'accord? Le Mashiach pour vous, c'est quoi? Un petit bonhomme rabbin qui va venir? Arrêtez! Beau gosse! Okay? Le Mashiach, c'est un roi. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est un royaume. On vous a tous fait croire que le Mashiach était un rabbin. Et on a réussi à vous faire croire ça. Incroyable! Melech HaMashiach. Pour être Mashiach, il faut être roi. Pour être roi, il faut des conditions de royaume. Ça aussi, c'est un discernement. Tu ne sais pas. Alors comment tu vas savoir? Pour être roi, il faut une monnaie. Si tu n'as pas de monnaie à l'effigie de l'État que tu domines, tu n'es pas roi. Pour être roi, il faut une armée. Si tu n'as pas d'armée pour contrôler et préserver tes frontières, tu ne peux pas être roi. Pour être roi, il faut une structure économique, il faut une structure sociale, il faut une structure juridique. Tout ça, ça s'appelle être roi. Il y a des gens qui remplissent ces conditions. Si, aujourd'hui, Bibi Netanyahu. Ouais. Alors, il suffit qu'il étudie un petit peu. Okay. Et il a la place du royaume. Je n'ai pas dit que c'était lui le Mashiach. Mais il y a des possibilités sur lui de chevaucher, de faire quelque chose. Vous comprenez comment tout est à côté de la plaque? Moi, je deviens fou, Chas de Shalom, de tous ces trucs-là. Je ne peux plus supporter une Torah du niveau où on a bassiné les gens pendant des dizaines et des dizaines et des centaines d'années pour en faire des machines à fabriquer des mitzvot. Kadosh Baruch Hu est tellement plus grand que ça, vous l'avez rendu nain. Kadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, Alors c'est sûr que je fais, j'applique les mitzvot, mais j'essaie de donner un sens à chaque chose, j'essaie d'étudier, j'essaie d'avancer. Je ne suis pas une machine à fabriquer des actes. À tel point qu'on est devenu, et je ne veux pas dire des mots grossiers, mais taré. J'étais dans une Brit Mila, il n'y a pas loin d'ici. Et j'étais tranquille en train d'attendre. Et une dame d'un certain âge veut prendre le bébé dans ses mains. Et un type à côté de moi vient comme ça, tout avec tout ce qu'il faut, qui lui dit « Non, 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 madame, ne le prenez pas maintenant, prenez-le quand il sera juif. » Ça veut dire après qu'on l'ait coupé. Alors je me retourne, je dis « Excusez-moi, il n'est pas juif le bébé ?» Il m'a dit « Non, on n'y a pas fait la Mila. » Je lui dis « Alors c'est bizarre, parce que j'ai jamais vu une loi qui ordonne à un goy de faire la Brit Mila. Je croyais que c'était parce qu'il était juif qu'il devait faire la Brit. Mais vous êtes en train de me dire que c'est la Brit qui le rend juif. » Il m'a dit « Oui. » Je lui dis « Ben j'ai un chat dans la voiture. Tu veux lui faire en même temps ? Je veux l'appeler Shalom. » Le type, il ne comprenait même pas ce que je lui racontais. Alors comment il s'est débarrassé de moi ? Il dit, moi j'étudie. Vous comprenez ? Est-ce que je ne ressemble pas à un rabbin ? Ben oui. Enfin, à ce qu'on pense que devrait être. Hein ? Vous êtes rentré dans des systèmes. Si aujourd'hui rentre maintenant quelqu'un avec une certaine forme, tout le monde se lève. Non, j'ai compris. Je parle pas de vous. Il y a des centaines de personnes qui entendent là, sur Internet. Vous comprenez, on est tout dans l'erreur. Tout ça, c'est des samemanim ritsoniim, ça s'appelle en hébreu. Des éléments superficiels qui nous ont complètement transformé notre vision des choses. Il faut revenir à l'essence. Il faut revenir à l'essentiel. Nous sommes là pour remettre les pendules à l'heure. Nous sommes là pour revenir à l'arbre de la vie, pour bien savoir après où est l'arbre du bien et du mal. Sinon, le bien et le mal se mélangent, ils se ressemblent tellement que le jour de Kippourim, on prend deux boucs qui sont les mêmes. Parfaitement les mêmes. Le même poids, les mêmes couleurs, le même argent a été payé, identique, des jumeaux. Et un, on l'envoie au Azazel, et l'autre, on l'envoie à l'Éternel. Et les Chachamim nous disent, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu ne sais pas faire la différence, tu vas faire l'inverse, parce que ça se ressemble tellement. Tellement le bien et le mal, tu penses dans ta vie faire du bien et tu es en train de faire exactement l'inverse. Parce que tu ne connais pas les différenciations, tu n'as pas ce da'at, tu n'as pas cette bina. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir que la période que nous sommes en train de traverser, qui est la période du Homer, qu'est-ce que c'est cette période du Homer ? C'est une période où je dois évoluer pour chaque jour grimper d'un étage pour m'approcher en fait de quoi ? De mon identité. La fête de Shavuot, c'est mon identité. Je vais recevoir en fait ma carte d'identité. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la carte d'identité que Dieu me donne ? C'est-à-dire Dieu se présente dans cette carte d'identité. Il nous donne une carte en fait. Chag HaShavuot, Dieu nous donne sa carte de visite. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette carte de visite ? Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. Pas le créateur du monde, je suis un frimeur. Non. Tu veux savoir que c'est moi le créateur de ce monde ? Une seule chose, rappelle-toi. Si c'était toi, jamais tu serais sorti d'Égypte parce que tu es omnibulé par les lois de cette nature. Tu penses que c'est impossible de les traverser. Et moi, je t'ai fait sortir de ces lois de la nature. J'ai défié la nature. J'ai défié le temps. C'est quelque chose qui te paraît impossible à traverser. Je l'ai ouvert devant toi. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Donc, ça veut dire que chacun de nous est capable de faire ça. On est capable de traverser des choses. D'ailleurs, tout ce que vous faites ici sur cette terre et sur cet état d'Israël, c'est de l'ordre de l'impossible, vous le savez. En 70 ans, est-ce que c'est possible de faire ce qu'on a fait ici? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des pays qui ont 900 ans, 1000 ans, ils comprennent même pas comment en 70 ans, on énerve tout le monde. Hein? Attention, hein? En plus de ça, on dirige tout le monde. Ces deux petits jeunes israéliens de 25 ans qui ont fait le Waze. On dirige tout le monde. C'est terrible. C'est-à-dire, il y a même un Waze en arabe. Et c'est terrible, ces deux petits israéliens de rien du tout.
En arabe, c'est évident. C'est la langue officielle d'Israël.
Un mâche. Hein? Il y a un mois, on a fabriqué avec une imprimante 3D un cœur. Mais où vous avez vu ça? Ma grand-mère, si elle se réveille maintenant, elle me dit « Vous êtes des sorciers ». Vous croyez ça? Une imprimante 3D a créé un vrai cœur, pas un truc en plastique, avec des cellules. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est la nation d'Israël, ce qui est impossible, on est en train de le faire à Botaï. Il y a 70 ans, on est sorti des fours crématoires. 3 ans plus tard, on a créé un État. Vous avez vu une chose pareille? Quelqu'un est capable de faire ça? Si ça, c'est pas un miracle, si ça, c'est pas défier la matière, alors je comprends plus rien. Vous devriez danser de joie et de remerciement d'être ici aujourd'hui. Pendant que tous les pays du monde et l'Europe en premier est en train de couler. Comme le... Comment il s'appelle ce grand bateau là? Le Titanic, c'est la même chose. Toute l'Europe, c'est un grand Titanic qui est en train de jouer. Les hommes embrassent les mains des femmes, tout est beau, les nœuds papillons, les cravates, et tout le bateau est en train de couler. Et ici, on est en train de monter, Biaïna. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est tout simplement pour parler d'un sujet, je n'ai même pas commencé. Recherchez qui vous êtes. Réapprenez à vous connaître. Réapprenons qui nous sommes. Quel est notre rôle dans ce monde? Nous sommes là pour apporter au monde du bonheur, de la joie. Regardez ce qu'on offre au monde. Mais regardez ce qu'on offre au monde. Regardez ce que nos voisins offrent à l'humanité. Allah Issa, comme on dit en français. Qu'est-ce qu'ils offrent à l'humanité? Que destruction, que mort, que sauvagerie. Et nous, regardez ce qu'on offre à l'humanité tout entière. Rabotai, c'est très important. Ata chonen le Adam da'at. Ou melamed le enosh bina. Vechonen ou meitecha. S'il te plaît, maître de l'infini, maître du monde, donne-nous un petit peu de ça, de ce da'at, de ce discernement, pour qu'on puisse voir en réalité ce que nous sommes venus faire ici. Mais je vais vous rassurer, on est condamné à gagner. Parce qu'on est dans l'équipe du champion du monde. C'est tout. Mais il faut rester dans l'humilité. Il faut savoir que ce n'est pas pour nous, mais pour l'humanité que nous sommes en train de travailler. On n'est pas là pour haïr les nations du monde, comme malheureusement certains religieux pensent. On est là pour éclairer le monde. On est là pour apporter au monde, pour embellir le monde. Pour nous marier, entre guillemets, avec toutes ces nations du monde qui n'attendent que cette lumière. Allez, donnez ce que vous avez. Eh bien, donnez ce que vous avez. Devenez les meilleurs dans votre domaine. Vous allez devenir des représentants de cette lumière divine. Toda Rabba. J'ai l'impression que vous étiez en hypnose là.